Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Connaissez-vous les pères du désert? Ces premiers pères de l'Église qui vécurent essentiellement en Égypte, en Palestine, en Syrie et en Russie. Depuis quelques mois, nous vous proposons de partager avec nous leurs lettres, adressées le plus souvent à leurs moines et à leurs contemporains. Ces lettres ont gardé encore aujourd'hui toute leur vitalité et leur chaleur. Poursuivons cette grande œuvre avec les conférences de Jean Cassien, plus particulièrement orienté sur le combat spirituel entre les passions et les vertus. Celui-ci naquit en City en 365. Poursuivons aujourd'hui avec Saint Jean Cassien notre méditation sur le Notre Père. Nous ajoutons « Donnez-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel, selon un autre évangéliste, notre pain quotidien. » Le premier qualificatif exprime sa noblesse et le caractère de sa substance, qui l'élève au-dessus de toute substance, et font qu'il dépasse par sa sublime grandeur et sainteté toute créature. Le second, notre pain quotidien, exprime l'usage qu'il faut en faire et son utilité. Le mot quotidien montre que sans ce pain, nous ne pouvons vivre un seul jour de la vie spirituelle. Quant au mot aujourd'hui, il montre qu'il faut s'en nourrir tous les jours et qu'il ne suffirait pas de l'avoir reçu hier s'il ne nous était pareillement donné aujourd'hui. Remettez nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Il nous fournit l'occasion dans la prière même et nous offre la facilité de le provoquer à rendre sur nous un jugement indulgent et miséricordieux. Il nous donne en quelque sorte le pouvoir d'adoucir nous-mêmes notre sentence et de le contraindre au pardon par l'exemple de notre propre indulgence. Lorsque nous lui disons « Remettez-nous comme nous avons remis ». Fort de cette prière, celui-là demandera le pardon de ses fautes avec assurance, qui se sera montré facile pour ses débiteurs. Je dis pour ses débiteurs, et non pour ceux de son maître. On remarque en effet, chez plusieurs, une habitude pire encore. Les injures faites à Dieu quelque énorme qu'elle soit, nous trouve plein de douceur et d'indulgence. Mais s'il s'agit de nous, pour la moindre offense, nous exigeons réparation avec une rigueur inexorable. Il suit cependant que quiconque n'aura point pardonné du fond du cœur les torts de son frère, n'obtiendra par cette prière que sa condamnation au lieu de l'indulgence, puisqu'il demandera lui-même un jugement plus sévère en disant « Pardonnez-moi comme j'ai pardonné ». S'il est traité comme il le demande, que peut-il bien lui advenir, sinon qu'à son exemple, Dieu se montre implacable en sa colère et le punisse d'une sentence sans indulgence? La demande suivante est celle-ci. Ne nous induisez pas en tentation. Cette demande soulève un difficile problème. Si nous prions Dieu de ne pas permettre que nous soyons tentés, quelle preuve donnerons-nous de notre constance? Car il est écrit, l'homme qui n'a pas été tenté n'a pas été éprouvé. Et encore, heureux l'homme qui supporte la tentation. Tel n'est donc pas le sens de cette parole. Ne nous induisez pas en tentation. Cela ne signifie pas ne permettez pas que nous soyons jamais tentés, mais ne permettez pas que tentés, nous soyons vaincus. Job a été tenté. Il n'a pas été induit en tentation, car il n'a pas accusé la divine sagesse. Il n'est pas entré dans la voie de l'impiété et du blasphème où le tentateur voulait l'entraîner. Abraham a été tenté. Joseph a été tenté. Ni l'un ni l'autre n'a été induit en tentation, parce que ni l'un ni l'autre n'a donné son assentiment au tentateur. Puis voici la dernière demande, mais délivrez-nous du mal, c'est-à-dire ne permettez pas que nous soyons tentés par le diable au-delà de notre pouvoir. Mais avec la tentation, ménagez-nous le moyen d'en sortir victorieux afin que nous puissions la supporter. Telle est la brève formule de prière que notre juge nous a donnée pour le fléchir. On n'y sollicite point la richesse, il n'est pas question d'honneur, nulle demande non plus de puissance ou de force, nulle mention de la santé ni de la vie temporelle. Celui qui a fait l'éternité ne veut pas qu'on implore de lui rien de périssable, rien de vil, rien qui passe avec le temps. Et ce serait faire gravement injure à sa générosité et à sa munificence que de négliger ses demandes où tout parle d'éternité, pour plutôt solliciter de lui quelques biens transitoires et périssables. Une pareille bassesse d'âme dans la prière attirerait la colère de notre juge, plutôt qu'elle ne gagnerait sa faveur.
Thank you.
Il semble bien que cette prière du Notre Père doive renfermer toute plénitude de perfection, puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous en a donné l'exemple à la fois et le précepte. Elle élève plus haut encore, cependant, ceux qui la rendent familière, jusqu'à cet état suréminent dont nous avons parlé précédemment, à cette prière de feu que bien peu connaissent d'expérience, et pour mieux dire, ineffable. Celle-ci dépasse tout sentiment humain. Ni son de la voix, ni mouvement de la langue, ni parole articulée. L'âme, toute baignée de la lumière d'en haut, ne se sert plus du langage humain toujours infirme, mais c'est en elle comme un flot montant de toutes les affections saintes à la fois, source surabondante, d'où sa prière jaillit à plein bord et s'élance d'une manière ineffable jusqu'à Dieu. Elle dit tant de choses en ce court instant qu'elle ne pourrait aisément ni les exprimer, ni même les repasser dans son souvenir lorsqu'elle revient à soi. Notre Seigneur, encore, a tracé pareillement, par la forme de sa supplication, le dessein de cet état lorsqu'il se retirera dans la solitude de la montagne ou que dans la prière silencieuse de son agonie, il répandait une sueur de sang par un exemple inimitable d'ardeur intense. Quel est l'homme, si grande que fût son expérience, qui pourrait peindre la variété, dire la cause et l'origine des sentiments de componction qui embrasent le cœur d'une brûlante ardeur et lui font former des prières si pures et si fervente? J'en vais dire présentement quelque chose, par manière d'exemple, autant qu'il me sera possible, à la lumière du Seigneur, pour rappeler mes souvenirs. Je psalmodiais. Un verset du psaume m'a jeté en cette prière toute de feu. Parfois, c'est la voix mélodieuse d'un frère qui a réveillé les âmes de leur assoupissement pour en faire monter une ardente prière. Je sais aussi qu'une psalmodie imposante et grave a donné quelquefois de grands mouvements de ferveur, même à ceux qui ne faisaient qu'y assister. Pareillement, les exhortations et entretiens spirituels d'un homme consommé en perfection ont souvent relevé des âmes abattues et en ont fait jaillir des flots de prières. La mort d'un frère ou de quelque personne chère n'a pas été moins puissante à me ravir en des sentiments de parfaite componction. C'est encore le souvenir de ma tiédeur et de mes négligences qui a parfois allumé dans mon cœur une ardeur salutaire. Il n'est donc personne qui ne rencontre une infinité d'occasions de sortir de sa torpeur, moyennant la grâce de Dieu, et de secouer sa somnolence, de rechercher comment et sous quels aspects la componction jaillie de l'intime sanctuaire de l'âme n'offre pas une difficulté moindre. Souvent, c'est par une joie ineffable et par des transports que se révèle sa présence salutaire, tellement que l'immensité même de la joie, la rendant intolérable, elle éclate en de grands cris qui vont porter jusqu'à la cellule voisine la nouvelle de notre bonheur et de notre ivresse. Parfois, au contraire, toute l'âme descend et se tient cachée en des abîmes de silence. La soudaineté de la lumière la saisit et lui ôte la parole. Tous ses sens demeurent retirés au fond d'elle-même ou complètement suspendus. Et c'est par des gémissements inénarrables qu'elle épanche devant Dieu ses désirs. Quelquefois enfin, elle étouffe à ce point de componction et de douleur que les larmes seules sont capables de la soulager. Je ne suis pas sans avoir quelque connaissance de ces sentiments de componction, en dépit de ma médiocrité. Souvent, au souvenir de mes fautes, mes larmes ont coulé. Et la visite du Seigneur m'a tellement vivifié de cette joie ineffable dont vous parlez, que son immensité même me commandait de ne point désespérer de mon pardon. Tout ceci, c'était le moine Germain qui venait de le dire. Rien ne serait à mon sens plus sublime que cet état, si nous pouvions le renouveler à notre gré. Il m'arrive parfois, pris du désir de sentir de nouveau couler ces larmes de componction, d'y dépenser tous mes efforts, je me mets en mémoire toutes mes erreurs et mes fautes, mais sans retrouver la source des pleurs, et mes yeux demeurent secs et durs comme la pierre. Pas une larme ne vient mouiller ma paupière, et autant l'abondance des larmes me donna de joie, autant je souffre de ne pouvoir la retrouver lorsque je le désirais. Les larmes, dit Isaac, ne viennent pas toujours d'un même sentiment. Elles ne sont pas le privilège d'une seule vertu. Il en est que nous versons, lorsque le souvenir de nos péchés, comme une épine, nous déchire le cœur. Et c'est d'elle qu'il est dit « Je me suis épuisé à gémir. Chaque nuit, je baignerai ma couche de mes larmes, j'arroserai mon lit de mes pleurs. » Et encore, « Laissez couler comme un torrent vos larmes jour et nuit. Ne vous donnez point de relâche, que vos yeux ne tarissent pas. » Il en est qui viennent de la contemplation des biens éternels et du désir de la gloire de Dieu. Celles-là coulent plus abondantes à cause de l'excessif bonheur et de la joie sans mesure que nous éprouvons, tandis que notre âme est dévorée de la soif du Dieu fort, du Dieu vivant, et qu'elle dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et qu'elle s'écrie chaque jour, gémissante et pleurant, « Hélas, que mon pèlerinage est long, comme je me sens exilée. » D'autres fois, bien que notre conscience ne nous reproche aucune faute mortelle, c'est la crainte de l'enfer et la pensée du terrible jugement qui font couler nos larmes. Dans le même sentiment d'effroi, le prophète adresse à Dieu cette prière « Seigneur, n'entrez pas en jugement avec votre serviteur, car pas un homme vivant ne sera trouvé juste devant vous. » Des larmes maintenant dans notre genre, ce ne sont pas les reproches de notre propre conscience qui nous les font verser, mais l'endurcissement et les péchés des autres. Ainsi Samuel pleura sur Saul, ainsi voyons-nous dans l'Évangile, le Seigneur pleurait sur Jérusalem. Et au temps passé, Jérémie, « Qui donnera, dit-il, de l'eau à ma tête et à mes yeux une source de larmes, et je pleurerai jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Telles encore, les larmes dont il est parlé à ce psaume, « J'ai mangé la cendre comme du pain et mêlé mes pleurs à mon breuvage. » Elles viennent d'un sentiment tout différent de celui qui fait gémir. Au psaume 6, le psalmiste, dans la personne du pénitent, ce sont ici les larmes du juste, écrasées sous le poids des inquiétudes, des angoisses et des chagrins du monde. C'est ce qui ressort avec évidence non seulement du texte, mais du titre même du psaume, « Prière du pauvre dans l'affliction » et répandant ses supplications devant Dieu. Celui qui met en scène est ce pauvre dont il est dit dans l'Évangile, « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. » À notre prochain rendez-vous, nous continuerons avec Jean Cassien ses conférences et verrons quelles sont parmi nos prières celles qui seront exaucées.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.